James Bond rêvait. Chose curieuse, il sut aussitôt où et quand le rêve prenait place. Pendant la guerre en Normandie, alors que très jeune, il marchait le long d'un sentier encaissé, un chemin de terre entre deux haies d'épines noires. Dans son rêve, à un tournant, il apercevait sur le bas-côté de la route boueuse, au creux d'un fossé peu profond, les corps détrempés de trois parachutistes anglais, les uns sur les autres. Choqué, il s'arrêtait d'instinct pour les regarder. Le tas inerte qu'il formait aurait pu passer pour une bizarre levée de terre, une grosse excroissance végétale en train de pousser là, et non pour trois êtres humains. Mais un hurlement furieux venu de l'arrière lui ordonna d'avancer. Dans un champ, au-delà du fossé, un fermier derrière ses deux chevaux de trait labourait sa terre comme s'il n'y avait pas la guerre, et que ces morts et cette petite patrouille de commandos remontant tant bien que mal, l'œil aux aguets, l'allée menant à sa ferme, n'avaient rien à voir avec sa vie ni son travail. Bond se réveilla et se redressa dans son lit, agité et troublé par ce rêve, son intense vivacité et son étrange précision. Son cœur battait très fort, aussi fort que lorsqu'il marchait le long de ce sentier boueux, droit vers son but, après avoir dépassé les parachutistes morts. Il songea à la date. Il pouvait la situer très exactement. C'était en fin de matinée, le 7 juin 1944, le lendemain du débarquement, le jour J plus 1. Pourquoi rêvait-il de la guerre? Il s'aventurait rarement dans la forêt hantée que constituaient ses souvenirs de cette époque. Il se passa les mains dans les cheveux, avala sa salive, la gorge sèche, irritée. Trop d'alcool hier soir? Il prit le verre d'eau à son chevet et but quelques gorgées, puis se rallongea et repensa aux événements du 7 juin 1944. Il sourit en son fort intérieur, se glissa hors du lit et se dirigea tout nu vers la salle de bain adjacente. Le Dorchester avait les douches les plus puissantes de Londres, et sous la piqûre presque douloureuse des jets d'eau, Bond sentit les souvenirs traumatisants de cette journée de 1944 se dissoudre lentement et disparaître. Il tourna le robinet d'eau froide à fond pour les dernières 20 secondes, puis songea à son petit déjeuner. Le prendrait-il dans sa chambre ou en bas? En bas, au restaurant, décida-t-il, tout serait plus frais. Il se rasa et mit un costume en laine peignée bleu foncé avec une chemise bleu pâle et une cravate en tricot de soie noire. Alors qu'il ajustait le nœud, d'autres détails de son rêve lui revinrent spontanément à l'esprit. Il avait eu 19 ans, lieutenant du service de renseignement de la marine, détaché en qualité d'observateur à Broad Force, une section de l'unité d'assaut 30. Un commando d'élite chargé spécialement de s'emparer des secrets de l'ennemi, documents, dossiers et dispositifs de codage. Tout le butin légitimement récupérable après la bataille. Bond était en fait à la recherche d'une nouvelle machine à chiffrer de la Wehrmacht et espérait que leur attaque surprise en devancerait la destruction. Plusieurs sections de l'UA-30 avaient été débarquées sur les plages de Normandie au jour J et aussitôt après. Broad Force était la plus petite. Juste 10 hommes, avec à leur tête un officier, le major Niven Brody, et le lieutenant Bond. Ils avaient quitté leur péniche de débarquement 1 heure après l'aube sur le secteur Jig de Gold Beach, d'où ils avaient été emmenés en camion jusqu'à Sainte-Sabine, une ville voisine du château de Malfacon, le quartier général SS de cette région de Normandie. Ils laissèrent leur véhicule avec une unité avancée de l'infanterie canadienne et continuèrent à pied le long des sentiers étroits du bocage normand, au cœur de la campagne. Leur progression avait été rapide car il n'y avait pas de ligne de front proprement dite. Broad Force jouait à saute-mouton par-dessus les forces anglaises et canadiennes et fonçait à toute allure sur le château de Malfacon afin d'y saisir le butin qui pouvait l'y attendre. Ils avaient alors aperçu les corps des parachutistes et le major Brody avait crié à Bond de continuer à avancer. Bond se recoiffa, aplatissant en arrière la mèche rebelle qui ne cessait de rebiquer comme animée de sa vie propre.